Mais toi, tu fais ton jambon blanc, toi, ouais. Tu cuis ton jambon.
Oui. Ah oui, ah oui. On fait, il y a plein de trucs qu'on fait. On est les seuls à faire à Paris.
Donc là, la gelée, c'est une gelée avec un bouillon de. On fait un bouillon avec les os de porc. C'est vraiment un métier quand tu le fais correctement. Tu jettes rien, tu gaspilles rien. Enfin, t'as pas intérêt quand tu fais des volailles, tu gardes les os des volailles pour faire des fonds. On n'achète pas de fonds, quoi, nous.
Bienvenue pour votre rendez-vous avec l'école Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers, professeurs échangent sur les innovations et les bonnes pratiques du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Aujourd'hui au menu, terrines et pâtes écroutes quand la haute charcuterie aiguise les appétits. Mais pourquoi tant d'amour pour le pâté croûte? Et d'ailleurs, comment il se prépare ce pâté croûte? Quelles sont les meilleures recettes? Et les terrines alors? Pourquoi elles continuent d'exciter nos papilles? Quelles sont les grandes tendances en la matière? Mais la haute charcuterie a-t-elle encore de l'avenir dans un monde de plus en plus végétal? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Aujourd'hui, autour de la table, Stéphane Thielen, bonjour.
Bonjour.
Artisan, charcutier, traiteur, né en Alsace, vous êtes passé par la Savoie, installé dans la région parisienne depuis 10 ans. Vous êtes resté quelques temps chez l'un des maîtres de la charcuterie, notamment du pâté croûte, Gilles Véraud, on y reviendra dans un instant. Mais depuis 2015, vous avez vos propres boutiques, d'abord à Vanves et puis 2018 à Paris, rue des Martyrs, dans le 9e, c'est bien ça?
Exactement.
Vincent Ferniaud également est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Journaliste gastronomique, vous êtes entre autres membre du jury du championnat du monde de pâté croûte, le fameux, et membre également, et ça, ça ne s'invente pas, du bureau de la confrérie de l'oreiller de la belle aurore.
Oh là, oui. Et même vice-président de la 5A, qui traite d'andouillette. Donc je suis vraiment dans le monde charcutier, on peut dire.
Ça, le monde charcutier. L'oreiller de la belle aurore, vous reprécisez quand même.
Oui, alors c'est un pâté croûte. C'est le pâté croûte superlatif inventé par Brillat Savarin en l'honneur de sa mère et qui fait entrer un nombre de gibiers tellement scandaleux, je dirais, qu'il est rare d'en trouver des vrais. Mais en fait, l'oreille de la belle aurore, c'est un très gros pâté croûte bien fait.
Parfait, on sait de quoi on parle aujourd'hui. Alors Vincent Ferniaud, justement, le championnat du monde de pâté croûte lancé en 2009 se paye le luxe d'avoir un relais médiatique grand public de plus en plus large chaque année. L'école Ferrandi vient de sortir son ouvrage Terrine, sous-titré Pâté croûte, rillettes, charcuterie chez Flammarion. Le pâté croûte, signature des grands artisans, s'arrache à prix d'or et fait la joie des foodistas. Comment vous expliquez cet engouement?
Alors, il faut d'abord dire que pâté croûte est un pléonasme scandaleux, puisque un pâté... par définition, se définit par sa pâte et non pas par sa farce. Pâté signifie que c'est dans de la pâte. Donc, pâté croûte, c'est deux fois dans de la pâte, en fait. Pâté et croûte. Donc, on devrait dire, en fait, du pâté. Du pâté croûte. S'il n'y a pas de croûte, c'est une terrine. Voilà.
Mais alors, pourquoi ce pâté croûte attire tant?
Eh bien, il attire parce que, d'abord, il reste l'œuvre de professionnels. C'est très difficile d'être un amateur et de faire un très beau pâté croûte parce qu'il y a un nombre de techniques qui rentrent en ligne de compte. Et ensuite, les produits qui vont servir à fabriquer ce pâté croûte à Lyon ou pâté en croûte partout ailleurs, il faut quand même le dire, sont les plus beaux produits qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on met en œuvre ce qu'il y a de meilleur et tout à l'intérieur d'une seule pièce.
Et puis, c'est Instagrammable, c'est beau souvent.
Ah, c'est beau. Ça a de la gueule. Hein, ça a de la gueule. Et comme vous le disiez en préliminaire, dans un monde où la viande est de plus en plus décriée, et le cochon en particulier, parce qu'il y a évidemment les véganes, mais il y a aussi toute une population qui ne mange pas de porc et qui donc a tendance à stigmatiser ce pauvre animal qui n'a rien fait sinon donner son corps pour le plaisir des gourmands.
Très bien, on reviendra sur ce point-là. Stéphane, vous êtes passé chez Gilles Véraud, je le disais, vous réalisiez jusqu'à 60 pâtés en croûte par semaine. C'est bien ça, hein, c'est
vous
qui m'avez
dit.
Ah oui, c'était
à l'époque, je pense que maintenant c'est beaucoup plus. Hein.
Donc désormais à votre compte, notamment durant les fêtes, vous croulez sous la demande. Comment vous expliquez ce succès? Pourquoi on vient chercher ce produit-là en particulier?
Alors, parce que c'est un produit qui est bon et parce que ça se rapproche aussi beaucoup de la pâtisserie, comme on... Il y a les grands pâtissiers, il y a eu les grands pâtissiers comme Cédric Grolet, Yann Couvreur, etc. Et maintenant, ils viennent vers la charcuterie pour déguster.
Et ce n'est pas un profil particulier. Tout le monde, il vient au pâté en croûte. Les jeunes, les vieux, les touristes, les hommes, les femmes.
Il
n'y
a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, c'est clair. Il n'y a pas d'âge.
Et combien vous en vendez là par semaine?
Nous, on en vend une vingtaine par semaine.
Une vingtaine de pièces de kilos.
Ah non, si plus que ça. 5 kilos. Hein,
ah oui, oui, c'est plutôt 4-5 kilos, ouais. D'accord. Donc ça fait une centaine de kilos par semaine.
D'accord.
En moyenne.
Quand on vous dit qu'il a du succès. Alors rappelez-nous, Vincent nous a expliqué un petit peu rapidement cette histoire de pâte, mais de quoi il est fait? Parce que vous, votre spécialité, effectivement, c'est un mets de précision. C'est pour ça que je parlais de haute charcuterie. Il vous faut plusieurs heures pour faire la pâte, c'est bien ça?
Oui, mis bout à bout, ça fait plusieurs heures. Pour faire une pièce, il y a la fabrication de la pâte. De la gelée et de la farce. La farce peut mettre plus ou moins beaucoup de temps si on fait des inserts, si on va avoir des étapes de refroidissement, hein, de mise au sel et tout ça, ça peut prendre plusieurs jours. La pâte, il y a plein de façons de la faire. Ça peut être, la plupart du temps, c'est une pâte brisée, mais il y a des personnes qui la font avec de la pâte feuilletée, hein, même. Hein, on peut imaginer plein de sortes. Et la pâte brisée, donc on va avoir du beurre, des œufs. De manière classique, de l'eau, de la farine.
Ou du saindoux à la base. Hein.
Ou du saindoux.
Souvent, c'était fait en mélange beurre-saindoux.
Ouais, nous, on met encore du saindoux. Hein. Mmh. On met encore du saindoux, surtout au prix du beurre actuel, à 10 euros le kilo. C'est quand même moins cher aussi. Donc, et ça rapporte aussi du croustillant, le saindoux. Et ce qui est important dans le pâté en croûte de maintenant, on cherche beaucoup le croustillant. Avant, on avait toujours ce qu'on appelle une bande de lard dans le pâté en croûte, une partie un peu crémeuse de la pâte qui n'a pas forcément cuit parce que les jus de cuisson de la viande sont venus se mélanger dans la pâte, donc ça ne cuit pas. Donc il y a beaucoup de techniques.
C'est ça, beaucoup de technicité.
Ouais,
hein.
Beaucoup de techniques.
C'est ce qui explique le prix?
Le prix, ça va être le temps aussi. Il y a tous les prix en pâté en croûte. On ne parle même pas des supermarchés, donc, on ne va pas parler de ça ici. Mais chez un artisan, en campagne, ça peut coûter 16 euros le kilo et ça peut monter jusqu'à 120, 130 euros le kilo chez certains prestigieux charcutiers parisiens.
Oui, ça dépend ce qu'on y met aussi. Alors justement, puisque chaque année, et puis vous regardez pas seulement au moment du championnat du monde de pâté croûte, mais vous êtes un gourmet aussi, Vincent, j'imagine. Donc vous regardez un petit peu ce qui se passe en règle générale. Donc à côté des grands classiques des fêtes, au foie gras, à la truffe, voire les deux, quelles sont les tendances en matière de pâté croûte, en matière de recettes de pâté croûte?
D'abord, ça permet au grand public de goûter des viandes qu'ils n'auraient pas l'occasion de goûter la plupart du temps, et notamment le gibier, puisque que ce soit à plume ou à poil, on peut faire entrer toutes sortes de gibier dans les pâtés croûtes, en adjuvant, en quelque sorte. La base est toujours, souvent, une base de cochon ou de volaille, hein, c'est-à-dire des viandes assez neutres, à moins qu'on prenne vraiment des viandes de très grande qualité qui peuvent s'exprimer ainsi. Et ensuite, on va les agrémenter, alors sur base d'une farce qui est hachée plus ou moins fine, avec des morceaux de filet, par exemple de canard. Hein, c'est le plus souvent du filet de canard que l'on peut trouver dedans, de la canette. Mais aussi, on peut y mettre du chevreuil, mais aussi on va y mettre du veau, et notamment les abats, les riz de veau sont très prisés dans les pâtés croûtes, dans certains pâtés croûtes. Selon les recettes, l'important, c'est d'avoir une homogénéité de cuisson. Parce que, et à la mâche également. C'est ce qu'on juge en tout cas au championnat du monde de pâté croûte. Les trois éléments dont a parlé notre grand professionnel qui connaît bien mieux le sujet que moi. Mais en tout cas, on a vraiment cet équilibre entre les trois parties. La farce, elle doit être à la fois goûteuse, cuite à cœur, pas séchée, homogène, avec des inserts qui vont en plus donner une esthétique à la coupe. La gelée, c'est très important parce qu'un pâté croûte, ça ressemble à un transatlantique des grandes années folles. Il y a trois cheminées ou quatre cheminées. Par ces cheminées, la vapeur va évidemment sortir, hein, permettre la cuisson, et il va falloir combler le trou autour de la farce qui se rétracte à la cuisson. Et c'est pour ça qu'on y coule une gelée. Et la gelée, c'est très important dans le pâté croûte. Et puis, la pâte. Et la pâte, c'est le premier regard, le premier œil, il est sur la pâte. Donc, tout est important. avec là aussi une mise en œuvre extraordinaire. C'est un peu le hamburger français maximum. Hein. C'est-à-dire qu'on a la viande, à la place du bun, on a la pâte, et puis la gelée, c'est la sauce. Hein. On ne va pas y mettre du ketchup, on va y mettre une super jolie goûteuse.
Sauf qu'au championnat du monde de pâté croûte, vous voyez des choses, on pourrait dire, un petit peu... presque dérangeantes. Parfois, vous avez des choses qui ne peuvent pas forcément matcher.
Oui, l'année dernière, par exemple, il y a eu l'essai d'un des candidats sur le poulpe, avec notamment un très beau dessin de poulpe sur le pâté qui faisait penser un peu à James Bond, vous savez, les méchants, ils ont ce symbole sur leur veste, en général, ou tatoué.
Sur la bague.
Sur la bague, absolument. Et ben, c'était diversement apprécié. C'est vrai que moi, j'aime bien l'union cochon-crustacé, par exemple. On peut y trouver parfois du homard, de la langoustine, on va avoir ce jeu terre-mer qui peut être intéressant, mais en définitive, on a tous en tête une sorte de pâté idéal, et toutes les tentatives créatives, eh bien, elles se soldent non pas par un échec, hein, parce que c'est bon, mais on en revient à des fondamentaux. Il y a quand même ce besoin de ce goût de viande. Et
finalement, parfois, la simplicité a du bon dans ces cas-là.
Votre recette, plus difficile que de faire simple.
Ouais, votre recette fétiche, Stéphane ?
Un volaille cochon foie gras classique. On reste plutôt sur classique, on met pas de poulpe ou de homard dans nos pâtés en croûte, parce que je trouve que du poulpe ou du homard, c'est meilleur à côté. C'est comme les cèpes, par exemple. J'avais essayé un pâté en croûte aux cèpes, j'avais trouvé ça pas du tout intéressant, alors qu'une poêlée de cèpes à côté, c'est délicieux. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans un pâté en croûte.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas se dire, ce n'est pas parce qu'on y met beaucoup de choses qu'il faut tout mettre. Ça, c'est...
Il faut s'y retrouver après dans ce qu'on...
Et celui pour lequel vous avez le plus grand souvenir, hormis les vôtres, mais le pâté croûte que vous avez dégusté un jour et vous dites...
Pour moi, le meilleur pâté en croûte, même si nous, il est très bon, c'est Johan Lastre. C'est vrai que c'est une claque à chaque fois. La dernière fois que j'y suis allé, c'était même une fois où j'étais allé incognito, je m'étais pas présenté. Et il m'avait donné une entame de pâté en croûte. Et en général, l'entame, c'est gras, c'est vraiment de la pâte et tout. Mais là, je me suis régalé.
De l'entame.
Oui, sa croûte est vraiment délicieuse.
Il faut noter que Johan Lastre, il est cuisinier de formation. Il a travaillé à la Tour d'Argent avant de devenir charcutier traiteur et spécialiste du pâté croûte. D'ailleurs, son oreiller de la belle Aurore est un peu dissident parce que c'est l'oreiller de la belle Marion, du nom de sa femme. Donc, il s'est permis quelques licences.
Non, mais je me souviens, Stéphane, vous m'avez vraiment dit ça. Après, ça met la larme à l'œil quand le goût de ce Johan Lastre.
Ah oui.
Vincent, vous, votre plus... Alors, c'est difficile parce que je ne sais pas combien vous en avez dégusté depuis ces années de membre du jury.
Des dizaines.
Est-ce que vous vous souvenez peut-être d'un ou deux qui vous ont vraiment fait cet effet-là de... émotion mémorable?
L'émotion, elle vient souvent. Moi, j'ai beaucoup aimé les pâté croûte d'un traiteur qui s'appelle So Good, qui a gagné le championnat il y a 4 ans, qui se trouve juste à côté de Genève, dans l'Ain, du côté de... j'ai oublié le nom de la commune, c'est pas grave. Et son second est venu se présenter 2 ans plus tard avec la même essence, très classique, hein, très bressant, hein, donc vraiment volaille de Bresse, cochon, foie gras aussi. Mais comme vous le disiez souvent, dans cet équilibre, le contraste est malvenu. Ce qu'on veut, c'est vraiment un équilibre parfait et que dans chaque bouchée, on ait l'ensemble du goût du pâté. C'est souvent, à mon sens, hein, les farces sont souvent bonnes, mais la différence se fait souvent sur la pâte et sur la gelée. Or, c'est pas un hasard si les Japonais gagnent depuis quelques années, enfin en tout cas souvent sur le podium et souvent gagnant. Le dernier gagnant a été un Japonais. Ils ont un art de la gelée qui leur vient de cette science de l'umami, et dans leur bouillon, ils arrivent toujours à mettre des aromates sans trop. Parce que j'ai vu aussi des catastrophes de gelée trop concentrée, comme des jus de viande trop concentrés, trop cuits. Non, une gelée, ça doit rester léger, acidulé pour équilibrer tout le gras et la richesse.
Vous nous mettez de l'eau à la bouche, vous écoutez. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est un championnat du monde de pâté en croûte. Et effectivement, au-delà du succès parisien-français, on a aussi ce succès international. Juste petite parenthèse, Johan Lastre, il est sur Paris. C'est vrai que c'est important de le préciser.
Dans le 7e arrondissement.
Rue de Grenelle, oui.
Merci. Les recettes et les astuces, on les retrouve également dans l'ouvrage Terrine de l'école Ferrandi Paris. Et justement, à côté de la haute charcuterie du pâté en croûte, il y a également les terrines. Stéphane Thielen, c'est un exercice plus simple ou plus compliqué ?
Non, ça reste plus simple, les
terrines. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de gelée et de pâte.
Ah oui, il n'y a pas cette histoire de pâte. Ouais, ça reste beaucoup plus simple.
Mais parlez-moi de la terrine de lapin, l'ail des ours.
Ramassée par ma grand-mère. Ça ne rentrait pas sur l'étiquette, mais c'est la version entière. C'est une terrine de lapin avec de l'ail des ours que ma grand-mère ramasse en Alsace au mois d'avril. Ça pousse pendant 2 semaines à peu près. Après, les pousses sont trop grandes et c'est plus très bon. Et ça fait le plus grand plaisir gustatif de mes clients. Ouais, on se l'arrache pas mal. On se l'arrache pas mal.
Il y a moins le côté esthétique sur la terrine.
Oui.
Il y a pas d'insert en général. Ouais, enfin, beaucoup moins.
Non, et puis nous, à la Maison Tilaine, on est vraiment sur le produit brut de qualité, le goût, le visuel, mais on ne va pas passer 5 heures à faire une terrine.
D'accord. Et votre idée, ce n'est pas forcément d'être Instagrammable ?
On n'est pas forcément Instagrammable sur certains produits. Après, tout est Instagrammable, hein. Bien présenté, bien décoré, une tranche avec un peu de poivre cassonade, c'est magnifique. Hein.
Mais vous n'êtes pas concours, vous me disiez.
Je ne suis pas très concours, non. De base, depuis toujours, ouais, c'est vrai.
Mais bon, vous êtes quand même réputé, parce que je retrouvais un article du Monde où vous étiez parmi la liste 15, des 15, ouais. C'est ça, hein, des 15 meilleurs pâtés en croûte de France et de Navarre, si j'ose dire.
Voilà, bah c'est plus simple que se déplacer, de faire un concours, quoi. Ouais, si les critiques peuvent venir à la boutique, ça nous arrange.
C'est ça, vous êtes sûr de gagner.
Alors Karine, vous ne savez pas tout, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai été aussi président du jury du concours de terrine amateur.
Et alors
par le chasseur français. Les résultats sont pas encore tombés. On l'a fait au Mesturet il y a deux mois. Oui. Ça va pas tarder. Alors, c'est très intéressant parce que la terrine, c'est un exercice tout à fait différent, comme le disait Stéphane. Hein. Je veux dire, il y a une simplicité, une espèce d'évidence. Et puis, chaque bouchée a le même goût, hein, parce que tout est haché en même temps, en général. La difficulté de la terrine... Alors, moi, j'ai vu des écueils exactement comme pour le pâté croûte. C'est souvent trop d'alcool. C'est-à-dire que... Et l'alcool ne doit pas dominer. C'est un formidable exhausteur de goût. Le deuxième écueil, c'est de trop saler sa terrine. Parce qu'évidemment, quand on sale à froid et qu'on cuit par la suite, est hors de question par rapport à un plat cuisiné de pouvoir ressaler quand on est le client. On va pas... Wow. J'ai vu hein, parfois faire de mettre de la fleur de sel sur des terrines, mais c'était pour signer le fait qu'il n'y avait pas assez de sel dedans. Mais ça, c'est dommage. Et ça, c'est aussi un écueil. Et puis enfin, trop de foie. Moi, j'avoue que j'ai toujours un amour des rillettes parce qu'il n'y a pas ce goût de foie. Et la présence de foie de porc dans une terrine, il faut qu'elle soit mesurée pour ne pas dominer le goût des autres produits carnés.
Vous approuvez, Stéphane ?
Ouais, donc pour le foie, je pense que c'est plutôt dans les pâtés de campagne, etc. Parce que dans les terrines, en général, on met plutôt du foie de volaille, peut-être, un peu plus. Mais effectivement, il ne faut pas que ça domine, mais ça rapporte un très bon goût, le foie. Mmh. Les clients en raffolent.
En tout cas, ceux qui nous écoutent, entre l'expertise du charcutier traiteur, l'expertise de Vincent Ferniaud, donc il faudra aller goûter dans votre boutique rue des Martyrs, ouvrir le livre Terrine de l'école Ferrandi. Et je pense qu'avec ça, normalement, vous avez de quoi faire quand même quelque chose de bon. Ceci dit, on en parlait juste en introduction, Vincent, avec le mouvement vegan qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la charcuterie, de la haute charcuterie ?
Pas du tout. C'est un produit marqueur fort de notre culture à table. Il n'y a aucune raison que ça disparaisse. Moi, je suis assez adepte. D'abord, je ne mange pas beaucoup de viande dans mon régime alimentaire quotidien. Beaucoup de produits laitiers, en revanche. Des œufs et du fromage, oui, beaucoup. La viande, de moins en moins. Donc, je suis complètement adepte du moins mais mieux. Tant pour les vins que pour la nourriture. Hein. Des produits de meilleure qualité, en moindre quantité, de toute façon, sera meilleur pour la santé.
Bah oui, je le rejoins là-dessus, tout à fait. Même les clients qui viennent à la boutique, s'ils viennent trop souvent, je leur dis « Venez moins, vous venez beaucoup trop. »
Allez chez le fruitier à côté un petit peu.
mais dans le sens où il faut manger moins et mieux. Quand les gens, par exemple, font des remarques, c'est rare, mais sur les prix de vente, ils me disent « Ah, bah, c'est cher et tout ça. » J'ai dit « Oui, mais bon, là, vous avez de la qualité. Quand vous achetez du jambon chez nous, il y a 90% de jambon dedans. Hein. Jambon de supermarché, il y a 50% de jambon. Le reste, c'est de l'eau. Donc, mangez moins, mais mieux. »
C'est effectivement intéressant qu'il y ait cet engouement, alors même qu'à l'inverse, on a le mouvement vegan qui est important.
Karine, vous n'avez pas entendu cette blague qui est partout sur les réseaux sociaux? Moi, c'est un petit joke, mais il résume bien. C'est sur les enfants, les jeunes aujourd'hui. C'est sacré gosse. il n'y a pas moyen de leur faire manger des légumes pour qu'ils t'annoncent à l'adolescence qu'ils sont véganes.
C'est un peu ça, c'est vrai. Non, et puis, il y a un point, vous m'avez soufflé à l'oreille, Stéphane, que finalement, charcutier, bah, c'était sexy.
C'est vrai, charcutier, c'est sexy.
Et c'est vrai, et ça marche bien au...
Non, mais je disais que le métier a vraiment changé en 15 ans. Avant, j'aurais jamais dit à une fille que j'étais charcutier ou boucher, puisque je suis boucher également. C'était une zone de non-retour.
L'anti-pécho au maximum.
C'était pas possible, alors que 15 ans après, sur Tinder, je mets ma tête avec un pâté en croûte. Elles veulent rencontrer le pâté en croûte, clairement. Et j'ai un date à cause de ça, quoi. Si je rajoute un chat sur la photo encore, alors là, c'est jackpot. Là.
Et on peut remercier, moi, ce que j'appelle en France la diagonale du cochon, Alsace, Auvergne, enfin Massif Central, Sud-Ouest. Il y a vraiment une culture du cochon fantastique avec des expressions extrêmement différentes selon les régions pour la charcuterie, mais la charcuterie, elle est partout.
Mais effectivement, le dernier, allez, faites-nous saliver pour conclure, Stéphane. Qu'est-ce que vous... La dernière innovation, nouveauté, expérience, spécialité que vous allez sortir.
On a fait un pâté en croûte avec du canard et des pleurotes. Pleurotes rôties et noisettes torréfiées avec une pâte à la farine de châtaigne. Et c'est délicieux. Et ça va sortir la semaine prochaine.
Eh ben merci, ça a l'air hein, comme ça, rien que sur le papier.
Eh ouais.
Je voulais pas en parler, c'était un peu...
Oui, c'est ça, ça, bon. Ça devait rester secret, mais
c'est
on a craqué.
Tard. Voilà, merci infiniment à tous les deux, Stéphane et Thielen. Donc on vous retrouve rue des Martyrs dans le 9e et à Vanves également, quelle rue?
24 rue de la République.
Eh ben voilà, merci beaucoup. Vincent Ferniaud, on vous retrouve dans tous les meilleurs jurys charcutiers, entre autres. Mmh. Et on peut vous suivre aussi sur...
Sur Sud Radio, tous les dimanches matin, Ferniaud fait le marché à 10h.
Et sur Insta?
Et sur Instagram, V Ferniaud, bien sûr. Pour avoir des bonnes recettes, je viens de créer la team gratin. C'est un autre sujet très intéressant, le gratin.
On y réfléchit chez Ferrandi. Bientôt les gratins, en plus c'est un produit de saison. Merci en tout cas à tous les deux. Merci aux équipes de Ferrandi, Nathalie, Clémence, Solal, Juliette Paul et à Étienne Blanchard qui a réalisé ce podcast. Au menu du prochain épisode, à demain. Et si l'avenir du cocktail était le sans-alcool ?